débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir pour le débat sur Radio France Internationale. Alors que le Salon de l'Agriculture ouvre ses portes à Paris, le débat sur l'avenir du monde agricole ressurgit dans l'actualité. On observe une méfiance grandissante à l'égard des traitements chimiques et l'essor de pratiques plus respectueuses de l'environnement. On constate une baisse de la consommation de viande qui oblige à réorienter la production, la nécessité de nourrir une population de plus en plus importante tout en préservant les ressources de la planète et ses équilibres oblige à repenser les modèles de production. Alors faut-il une révolution agricole ? On va en parler avec nos deux invités ce soir. Je vous les présente tout de suite. Je commence avec vous, Bruno Parmentier. Vous êtes économiste, ancien directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers et consultant pour les questions d'agriculture et d'alimentation. Votre dernier livre a pour titre « Faim zéro, en finir avec la faim dans le monde ». C'est aux éditions de La Découverte. Bonsoir à vous, Bruno Parmentier.
Bonsoir.
Laurent Pinatel est, lui, le porte-parole de la Confédération paysanne, qui se définit comme le syndicat pour une agriculture paysanne. Bonsoir, Laurent Pinatel.
Bonsoir.
Alors, quel est le constat ? Pourquoi évoque-t-on ce soir, par exemple, la nécessité de changer le modèle agricole dominant ? Bruno Parmentier.
Alors, il faut se rendre compte, puisqu'on a des auditeurs aux quatre coins du monde, que la situation de l'agriculteur est très différente suivant les régions du monde.
Bien sûr.
En Europe, on mange à sa faim, et on a des problèmes d'obésité, etc. Mais en Afrique, je veux dire, une bonne partie des gens ne mangent pas à leur faim, la population va doubler. Il faut tripler la production agricole dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Mmh. Donc les problèmes sont extrêmement différents.
Une partie de la population, on va dire. Ouais,
une partie. Et il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Oui. C'est-à-dire il y en a autant qu'en 1900. Alors bon, l'agriculture a fait d'énormes progrès depuis 1900, puisqu'en 1900 on était 1,8 milliard. Maintenant on est 7,3 milliards. Il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Mais le nombre de gens qui mangent à leur faim a beaucoup augmenté. Mais il faut encore augmenter de 50 à 70% la production agricole mondiale, essentiellement dans ces pays où la population va augmenter massivement, notamment l'Afrique, et dans les pays où les classes moyennes vont beaucoup se développer. Parce que dès que on commence à avoir un peu d'argent, on commence à changer son alimentation, et notamment à passer à des produits animaux. Or, les produits animaux, grosso modo, c'est de la concentration de produits végétaux. Donc, il faut beaucoup plus de végétaux quand on mange de la viande et qu'on boit du lait que quand on ne fait que manger des céréales.
On le voit, vous avez un regard très mondialiste sur la question qu'on évoque ce soir. Laurent Pinatel, vous êtes, vous, plus proche, je dirais, de l'agriculture franco-française, on va dire, ou vous avez un intérêt aussi pour l'agriculture global, mondial.
Donc à la Confédération paysanne, on adhère à un organisme européen qui est notre maison mère européenne, qui s'appelle Via Campesina Europe, qui adhère elle-même au mouvement mondial des paysans, la Via Campesina. Donc effectivement, dans notre projet d'agriculture, l'agriculture paysanne, on a une dimension internationale très forte, qui est dont le principal credo est la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le droit des peuples à choisir eux-mêmes leur nourriture et à la produire eux-mêmes. Et on essaye de faire le lien sur les politiques européennes et ce qu'elles induisent sur les politiques des pays tiers et sur le développement économique et alimentaire des pays tiers. Nous, vraiment, là, on est au cœur d'un an de campagne qu'on a menée en France à travers tous les départements sur les politiques alimentaires. On va présenter au Salon de l'Agriculture dimanche matin notre projet pour une autre PAC, pour la PAC 2020, qui met avant tout en avant les besoins alimentaires des populations. Plutôt que de produire une politique agricole en fonction de ce que les paysans veulent faire, nous, on a fait le pari de partir de l'inverse, en fait. Quels sont les besoins alimentaires de la population française, européenne et mondiale, et quelle politique agricole on met en place en face? Et effectivement, inévitablement, et je le dis avec d'autant plus de liberté que je suis moi-même producteur de viande bovine, il va falloir qu'on commence à diminuer la production de viande bovine, parce qu'il va falloir consommer de moins en moins de viande bovine et faire une transition au niveau européen vers la production de protéines animales, vers une production de protéines végétales, parce qu'elle occupe moins d'espace et qu'elle correspond à un enjeu de nourrir de plus en plus de populations. Parce qu'effectivement, comme le disait Bruno Parmentier, on a dans le monde de plus en plus de gens qui ont faim, enfin de façon stable, mais le nombre de gens qui qui ont faim est constant, mais on a aussi en France une précarisation de la population qui est quand même assez importante. Quand on imagine que dans la sixième puissance économique mondiale qu'est encore la France, il y a des gens, s'il n'y avait pas la banque alimentaire, eh ben ils pourraient pas manger. Alors nous, ça nous interroge quand même par rapport à quelle politique alimentaire de façon globale au niveau européen ou au niveau mondial.
Alors j'en viens à vous, Bruno Parmentier, parce que j'aimerais comprendre comment on peut concilier la production de masse et la préservation de l'environnement.
Alors, les technologies agricoles qui ont été développées depuis la Deuxième Guerre mondiale consistent à artificialiser au maximum l'agriculture. On va faire des labours de plus en plus profonds, pour recommencer un peu à zéro, puis on va mettre des engrais, et puis des herbicides, et puis des insecticides, et puis des fongicides. Et tout ça, ben, ça a d'un côté permis de tripler la productivité. Là où on sortait 3 tonnes de blé à l'hectare, maintenant on n'est pas content quand on n'en sort que 8. Hein. Là où on sortait 3000 litres de lait d'une vache, maintenant on n'est pas content quand on en sort moins de 8000. Donc c'est pour ça qu'on a absolument plus faim en France. Mais en même temps, c'est une agriculture qui appauvrit les sols, et c'est une agriculture qui dépend d'un accès permanent à des ressources non renouvelables. Et maintenant, les inconvénients de cette agriculture commencent à être égaux que ses qualités. Et donc, on n'arrive plus à augmenter durablement les rendements. Et puis, il y a de plus en plus de pépins. Par exemple, cette année, en France, avec tous nos engrais, tous nos pesticides, etc., il y a eu un printemps pourri. Eh ben, on a régressé de 30 ans sur la production de blé. C'est 30 à 40% de moins de blé. Et donc, ça oblige quand même à se dire, est-ce que notre agriculture est durable? C'est-à-dire, dès qu'il y a un pépin climatique, si on n'arrive plus, ben, on se dit qu'au bout d'un moment, ben, peut-être que les labours profonds, qui, contrairement à ce qu'on pense, tassent le sol plutôt que de l'aérer, eh ben, ça fait que les sols s'inondent. Le fait qu'on ait retiré les haies, fait que l'eau, ça marche plus, etc. Et donc, il faut remplacer une agriculture chimiquement intensive par une agriculture écologiquement intensive. Oui. Mais il s'agit pas de produire moins. On a 7 milliards de gens, puis bientôt 8, 9 ou 10 milliards à nourrir. Sauf qu'il faut le faire en intensifiant les processus écologiques, alors que ce qu'on sait bien faire, c'est intensifier les processus chimiques qui eux-mêmes commencent à avoir d'énormes problèmes.
Alors, je demandais à Laurent Pinatel si ça existe pour lui, si c'est possible pour lui, cette agriculture écologiquement intensive.
Moi, j'ai du mal avec le terme écologiquement intensif, hein, parce que on a l'impression que c'est deux mots qu'on accole et qui sont un peu contradictoires. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, il faut revoir le système agricole. Il faut revoir le système agricole parce que d'abord, il faut pas oublier qu'on surproduit. En production laitière, le mal en Europe, c'est la surproduction laitière. En viande de poulet, en viande de porc, il y a une surproduction. Donc il faut analyser ce qui se passe aujourd'hui chez nous et de se dire, on produit trop de certaines choses. Et peut-être qu'on produit pas assez d'autres choses. Donc il faut vraiment un grand plan européen de l'agriculture qui prenne en compte et qui respecte les agricultures des pays tiers, ce qui n'est pas le cas pour le moment, hein, parce que demain matin, François Hollande va inaugurer le salon de l'agriculture. On va encore nous promettre, comme tous les ans, qu'on va aller voir Taïwan pour leur fourguer de la viande bovine pas chère, qu'on va aller voir la Chine pour leur filet du porc pas cher, qu'on va aller inonder le monde de nos surplus à grand coup, quelque part, de subventions européennes, puis c'est les subventions européennes qui contribuent à produire. Donc, il y a quand même une surproduction. Il y a aussi du gaspillage alimentaire. Alors, du gaspillage alimentaire, effectivement, hein, tout au long de la chaîne de fabrication, mais il y a du gaspillage alimentaire, parce qu'aujourd'hui, on a mis en culture des terres pour produire du carburant, plutôt que de produire de l'alimentation. Je pense notamment à tout ce colza qui va rentrer dans le réservoir à carburant de nos tracteurs, à tous ces choses qu'on nous vend et qui servent à rien. Et puis après, tous ces transports autour de la planète qui forcément génèrent des pertes en ligne, en fait.
Mais est-ce que vous pensez-vous qu'il faut que les agriculteurs français s'investissent dans la production alimentaire globale, aident à nourrir la planète, comme Bruno Parmentier le suggère?
Ouais, nous, on avait dit à François Hollande un jour que, voilà, on nous parle de producteur. Moi, j'en ai marre de ce terme de producteur, quoi. Un paysan, il est là pour nourrir, il est pas là pour produire. Et on s'aperçoit qu'au fil des process industriels qu'on a appliqués à l'industrie, à l'agriculture, on produit une alimentation de moindre qualité. Aujourd'hui, on a des blés pour faire du pain qui ne sont plus nourrissants. Quand on revient sur le travail de variétés anciennes, qui produisent moins, on est plus près des 3 tonnes hectare que des 8 tonnes, mais on a des blés qui ont une valeur nutritionnelle beaucoup plus forte. Mmh. Donc en mangeant moins de pain, on se nourrit mieux. Exactement pareil pour les systèmes laitiers. Nous, on a mené une étude au tout début de notre campagne par rapport à l'alimentation, une étude qui nous montrait que suivant les systèmes alimentaires des producteurs de lait et de la production laitière, si on est sur des systèmes maïs-soja, on a un lait qui est de moindre qualité nutritionnelle que sur un lait à l'herbe. Mmh. Et le maïs soja, c'est quand même aller accompagner la déforestation de l'Amazonie, attaquer les agricultures vivrières de l'Amérique latine pour faire du soja, pour faire manger nos vaches et nos poules. Alors, donc il y a un système à revoir.
Il y a plein d'idées, effectivement, dans ce qui sont exprimé là. Bruno Parmentier, peut-être sur cette idée du rapport qualité-quantité.
Oui. Alors, surtout quantité. Ça n'a rien à voir le problème de l'élevage et le problème des céréales. Les céréales, c'est une production absolument fondamentale pour l'avenir de l'humanité, parce que c'est la base de l'alimentation de la plupart des gens. Mmh. Et c'est des produits qui peuvent se garder plusieurs années et qui peuvent circuler. Il se trouve qu'on a des bonnes terres agricoles pour faire des céréales. Donc, se limiter sur la production de céréales, c'est quelque part faire courir des risques à la paix du monde, aussi simple que ça. En revanche, en matière de production animale, là on est sur des produits périssables et qui sont difficiles à exporter parce que notamment la viande, c'est plein de tabous, c'est plein de peurs, etc., etc. Or, on est à la fin d'un cycle. Au XXe siècle, avec l'enrichissement des Français, on a cessé d'augmenter la consommation de viande. Grosso modo, on consommait comme le millésime. Dans les années 20, 20 kilos de viande par tête de pipe. Dans les années 50, 50 kilos de viande. Dans les années 80, 80 kilos de viande. Et au tournant du siècle, 100 kilos de viande. Mmh. Et aujourd'hui, seuls les naïfs pensaient que ça allait continuer. Mmh. Qu'en 2100, on allait consommer 200 kilos de viande. En 2200, 300 kilos de viande. Et donc, le summum, c'était au tournant du siècle. Et maintenant, ça y est, on commence à consommer moins. La viande est moins à la mode. Hein, dans le temps, tous les ouvriers voulaient manger comme le patron. Le patron, il mangeait de la viande. Maintenant, le patron, il devient végétarien souvent. Bon, donc, c'est moins à la mode. Donc, les défenseurs de la cause animale, ceux qui ont peur du cancer, de l'obésité, enfin, etc. Et donc, on commence à diminuer. Mais tout notre système de production, ben, il a accompagné pendant un siècle cette augmentation de la production. Donc, ce qu'on sait faire, c'est beaucoup de viande, beaucoup de lait, pas cher, toujours plus. Et maintenant, ben, c'est l'inverse. Il faut faire pour la viande ce qu'on a fait pour le vin. Dans les années 50, hein, grand-père, ça y allait sur le litron. C'était 140 litres de vin par tête de pipe en France. Maintenant, c'est 40. Mais il y a toujours des viticulteurs en France. Oui. Sauf qu'il n'y a plus de piquettes.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Le vin, au lieu de le vendre par litre, on le vend par 75 centilitres. Au lieu de le vendre moins d'euros le litre, on le vend 4 à 5 euros. Et on a convaincu les gens que la qualité, ça vaut la peine. Et donc, dans la viande actuellement, ben, par exemple, le poulet qui n'a aucun goût, fait à partir de maïs et de soja latino-américain, eh ben, celui-là, il se casse la figure. Mais si vous allez à louer, tout le monde se loue du poulet de louer. Et c'est pareil pour le lait. Hein, le lait de base est en crise, mais actuellement, le lait bio, ça va. Ouais. Ou si vous allez en Franche-Comté, pour le Comté, ça va.
Donc, il faut donc favoriser la qualité.
Il faut passer d'un système qui est totalement tourné vers la quantité à un système tourné vers la qualité. Ouais. On mangera moins de viande et moins de lait. J'espère qu'on le paiera plus cher pour que les agriculteurs puissent continuer à en faire.
Et on nourrira tout le monde quand même.
Et ça, c'est une révolution considérable. Mais il faut se dire que ça ne peut être que marginal, l'exportation de viande. Mmh. On doit produire en Europe la viande consommée par les Européens. Et les Européens commencent à en produire moins.
Alors, Laurent Pinatel, quelles solutions vous préconisez-vous? Qu'est-ce qui pourrait aller dans le sens d'un mieux?
Déjà, pour aller vers le mieux, il faut accepter que le modèle agricole français tel qu'il est développé depuis les années 60, il est fini en fait. C'est un modèle périmé. Et aujourd'hui, on a deux choix. Soit on produit, soit on continue d'orienter l'agriculture vers la production de biens alimentaires pour nourrir la population, donc sur une agriculture axée alimentation. Soit on continue cette dérive qui est quand même de plus en plus présente et qui est accompagnée
c'est
par
quoi,
beaucoup,
la dérive
notamment par la FNSEA, c'est de fournir de la matière première brute à bas prix pour l'agroalimentaire. Donc soit on a une agriculture tournée vers l'alimentation des citoyens, soit on a une agriculture qui est tournée vers la production de biens de matières premières pour que l'agroalimentaire, elle continue de se gaver. Si on regarde juste une parenthèse sur la crise agricole actuelle, on s'aperçoit que la filière agricole, chère à la FNSEA, cette filière agricole, elle se porte super bien. La distribution qui commercialise va bien. La transformation, Emmanuel Beignet, tous les grands groupes, Sophie Protéo à l'Avril, ils se gavent, ils s'en foutent plein les poches. Et les paysans ne vivent pas. Ça veut dire qu'il faut qu'aujourd'hui, on arrive à produire une alimentation de qualité. C'est-à-dire produire moins, mais produire mieux. Alors, va se poser après le problème de l'accès à l'alimentation. S'il y en a moins, elle sera plus chère.
Ouais.
L'accès à l'alimentation des masses et des plus grands nombres, des gens qui n'ont pas le revenu. Et ben nous, on estime qu'il y a 10 milliards d'euros de la PAC en France tous les ans, qui sont distribués à l'agriculture entre 9 et 10 milliards. Et ben que ces 9 et 10 milliards, plutôt que d'être distribués en fonction des hectares, du nombre de vaches, en gros d'être des primes à la quantité, elles doivent être des primes à la qualité. Et on doit pouvoir accompagner la transition agricole vers des systèmes plus respectueux des hommes, plus respectueux des sols, de l'environnement, pour fournir une alimentation de meilleure qualité, qui sera accessible à tous, parce que les primes PAC, elles seront venues compenser ces surcoûts de production.
Ouais. Vous êtes d'accord intégralement ou peut-être pas?
Oui, je mêler des luttes entre les syndicats, mais je suis d'accord globalement. Mmh. Il faut produire maintenant ce qu'on mange, au moins pour les produits animaux, etc., et les fruits et légumes. Bon, les céréales, je mets ça à part, ça peut circuler sur le monde et c'est quand même très stratégique.
D'accord.
Bon, donc il faut produire ce qu'on mange. Et maintenant, on a besoin d'une alimentation de meilleure qualité. Et il faut quand même dire aussi aux consommateurs, bien manger aujourd'hui, c'est consacrer plus de temps et plus d'argent à notre alimentation. Mmh. Hein, en 40 ans, on est passé de 40% de notre budget pour manger à 14%. Bon, alors, il y a pire, hein. Les Américains, c'est 7%. Les Anglais, c'est 9%. Enfin, moi, j'en vis pas la gastronomie américaine et anglaise, hein. Mmh. Donc, moi, 2% de plus de notre salaire pour manger, ce sera moins de dépenses de sécurité sociale, etc. Et donc, et aussi du temps. C'est-à-dire, bien manger, c'est consacrer du temps à faire des courses et à se faire à manger soi-même et ne pas attraper juste des choses surgelées dont on ne connaît pas trop la provenance pour réchauffer. Et puis, quand on imagine qu'on peut manger des lasagnes avec de la viande à 1,50€ la part, déjà cuite, mais tout le monde sait que ça n'existe pas. Et donc, on achète du trader fou à Chypre et on achète à la fin quelqu'un de malhonnête qui retire l'étiquette cheval pour mettre l'étiquette bœuf. Mais au démarrage, on a construit le monde qu'on voulait. Je veux dire, la lasagne à la viande de qualité à 1,50€, ça n'existe pas, point final. Et en plus, alors on va aller encore plus loin, tout le monde mange de la viande à midi en France. Pourquoi on remange de la viande le soir? Il n'y a rien de mieux que la soupe de légumes le soir. On n'a pas besoin de manger deux fois de la
D'accord,
viande.
Mangez
et
moins.
C'est moins cher, mais il faut y consacrer un peu plus de temps.
Alors, regardez l'heure, il est pratiquement l'heure de nous quitter. Moi, je voulais terminer sur cette question. Si vous deviez donner un conseil à un jeune qui se lancerait dans la profession, Laurent Pinatel, quel serait ce conseil?
Vraiment, le conseil, c'est de se dire qu'il faut analyser le marché tel qu'il est aujourd'hui. Mmh. Et les filières longues traditionnelles, elles ont vécu. Il faut vraiment que les jeunes y construisent leur projet d'installation vers des économies relocalisées. Peut-être continuer à produire du lait, mais qui va être transformé localement à 10 ou 15 paysans, c'est l'exemple des fruitières en Franche-Comté, et qui va servir un marché local. Ça veut dire qu'il faut que le poids des politiques locales soit très fort, que les conseils départementaux, les conseils généraux, les mairies se disent « Nous, dans nos collectivités, on veut manger du local. » Et il faut absolument qu'il y ait un travail qui soit fait de façon très forte sur la production de légumes, parce que c'est pas normal qu'un pays comme la France importe la majeure partie des légumes qu'on consomme. Là, il y a vraiment un travail à faire autour d'une autre agriculture relocalisée en fonction de l'alimentation locale.
30 secondes, Renaud Parmentier, pour conclure.
Alors, je dirais à un jeune, vous êtes à l'an 1 de l'agriculture. Et il faut se rendre compte que sous un mètre carré de sol, il y a 260 millions d'êtres vivants. On n'en connaît quasiment aucun. Mmh. C'est seulement maintenant qu'on va commencer à comprendre. Et donc, quelque part, cette idée de labourer, de mettre des produits chimiques, c'était un aveu d'impuissance et de très faible connaissance. On arrive seulement maintenant à connaître tous ces organismes vivants et à pouvoir traiter le champ, non pas au champ, mais même pas au mètre carré, plante après plante. Et donc, on va faire de l'agriculture d'extrême précision en connaissant réellement les forces écologiques qui sont à l'intérieur du sol. Et donc, au lieu d'avoir cette agriculture un peu d'ignorant en essayant de voir ce qu'on pouvait, on va vraiment pouvoir intensifier ces processus écologiques.
Allez, on n'en dira pas plus ce soir. Peut-être le débat va-t-il émerger au cours de cette présidentielle. On l'espère en tout cas. Merci à tous les deux. Bruno Parmentier, je rappelle le titre de votre dernier livre, Faim zéro pour en finir avec la faim dans le monde, c'est aux éditions de La Découverte. Et Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération Paysanne, qui est au Salon de l'Agriculture jusqu'à la semaine prochaine. Merci aussi à Léonore Krenik qui a préparé cette émission, Claude Baptista qui la réalise. Bonsoir à tous, un nouveau journal sur RFI.